Alors bonjour, les papous en piste pour un tour de langue avec Hervé Le Tellier et l'inventaire collectif de nos fées et sorcières réelles ou de fiction, Sophie d'Ivry.
Mon héroïne depuis mon adolescence, c'est tout de même Simone de Beauvoir.
Ah bon ?
J'ai tout lu d'elle, je trouve tout fantastique.
Et
surtout,
là là.
J'ai adoré l'entendre parler anglais, parce qu'elle a un accent abominable et ça me la rend plus proche encore de moi.
Ah oui ?
Je suis aussi au timing.
Ensuite, les primaires de la gauche en homophonie approximative, prétexte à histoire. Une page de pub sur la procrastination. Et puis, nous ferons Souya Souya avec Véronique Brindeau, Patrice Comeau et Jean-Bernard Puy qui imaginent que San Antonio s'est inspiré de cet impressif japonais, Souya Souya.
Bref, tout ce déconnage abject pour dire que Ginette, c'était de la panthère comme on n'en fait plus, de Somalie ou des Philippines, déjà... Il y avait un client qui la matait, alors elle l'a regardé, avec des yeux de président de la République annonçant aux contribuables que les impôts sont supprimés, et elle lui a lancé « Tu veux ma photo, Maton ?»
François Strossard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou à podcaster sur franceculture.fr, à retrouver aussi sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité affectueuse. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. La bande vous ouvre grand les bras. Et on se lance en rime avec une nouvelle page du petit rimailleur, notre dico en vers de la langue française au menu. Un mot qui va bien au papou puisque nous jouons avec lui depuis toujours. Et c'est Hervé Le Tellier qui s'y colle. Un mot à définir sous forme de poème. Hervé Le Tellier, je vous ai proposé de choisir un mot à traiter et vous avez choisi la langue dans toutes ses acceptions.
Si j'ose dire.
Est-ce que Violaine Schwarz, vous voulez bien contrôler Hervé Le Tellier dans ce dictionnaire de référence qui est notre dictionnaire, qui comporte pas toujours tout d'ailleurs, enfin c'est pas mal. Alors, vous vous êtes intéressé à la langue, sous quelle forme versifiée, Hervé ?
Sous toutes ses formes.
Et alors, octo, déca, vous avez traité tous les métrages.
Je suis dans le maître classique français, l'Alexandrin.
D'accord. Ça y est, vous êtes à la langue, Violaine ?
Oui, je suis.
Vous êtes à la langue ? Très bien.
Elle est très, très...
Bien.
Elle est riche, cette langue. Elle est riche, la langue. Oui. J'ai l'impression que celle d'Hervé est toute petite, non ?
Non, j'ai une petite langue, mais...
Mais elle est très habile, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Allez, on vous découvre.
Bien. L'étymologie de ce mot nous importe. Langue vient du latin, de lingua, on le sait, bien que le latin soit, lui, une langue morte. C'est d'ailleurs la langue dans laquelle je me tais. C'est tout d'abord un muscle, et tout le monde en a, même moi, je la montre.
Ouais.
Ah oui.
Ouais, nous en resterons là. On peut même manger de la langue de veau, sauce souvent piquante, avec un risotto. C'est un plat délicieux et l'on dit au Brésil, le pauvre mange de la viande quand il se mord la langue.
Et oh, bon, Borisian... c'est triste.
Oui, c'est affreux. Oui. Et citons Borisian, car c'est toujours utile. La langue est un organe sexuel dont on se sert occasionnellement pour parler. C'est un bien bel organe, souvent gardé caché. Pour ses 72 ans, Einstein tira la langue, geste qui, c'est bizarre, était un pied de nez. Et si l'on dit qu'on a un cheveu sur la langue, c'est très exagéré, il n'y a qu'à regarder. Il n'y en a pas, en fait. Enfin, c'est une expression, quoi. Voilà pour ce qui est du côté musculaire et pour la transition vers le vernaculaire. Ma patrie, disait l'autre, c'est la langue française. Et si vous êtes anglais, ça sera la langue anglaise. Et
c'est ça, c'est
ah ouais, non, mais quel alexandrin, hein.
Et c'est ce qu'on appelle la barrière de la langue.
Ah.
Et oui. Des langues, la planète en compte des milliers, du wolof au breton, sans oublier l'ouzbek, du finnois au ouïghour, du japonais au tchèque. Je m'arrête là, il n'y a pas de honte à parler un patois, parce que la langue est un dialecte qui possède une armée. C'est aussi simplement une façon de parler. Si elle est bien pendue, on a du répondant. Si elle est trop pâteuse, il faut se brosser les dents. Si elle est de vipère, c'est qu'on est médisant. Et si elle est de bois, on est au Parlement. La langue est limitée, ne recouvre pas bien le monde et Saussure a raison de souligner ce point. Oui, on a peur du loup tant qu'il n'y a pas de chien. Mais cette discussion nous mènerait trop loin. Ouais. Revenons donc ici sur la définition que propose à naguère un dénommé Scipion. Cette lettre, mot qu'on a sur le bout de la langue. Vous la donnez au chat ?
Oui.
Scipion, cette lettre.
Papille.
Ah, bah oui.
Mais oui.
Ah, ça se termine comme ça.
Ça se termine comme ça.
Quelle chute. Alors, Violaine, il a traité de façon très concise beaucoup de sens. Est-ce qu'il les a tous traités ou y a-t-il des oublis?
Non, ça m'a l'air d'être tout à fait complet.
Ouais, enfin, vous avez surtout regardé Hervé plus que le dictionnaire, m'a-t-il semblé.
J'étais un peu happée. Oui, oui, non, c'est vrai que...
Non, mais il est fascinant.
Ah bah oui, c'est ça, c'est ça.
Et puis, il a une tête belle d'or.
C'est ça.
Surtout quand il montre sa langue au micro.
J'ai été happée, ça c'est formidable. Être happée par...
Hervé Le Tellier.
Hervé Le Tellier, c'est une expérience extraordinaire.
Oui. Oui.
et pas courante.
Il n'a pas traité la langue de bois, si,
si
avec
si,
les bonités.
Si, mais j'ai tout traité.
Bon, est-ce qu'il y a une jolie citation dans le dictionnaire?
Un petit Maurice Genevoix.
Oui.
Ouais, Pierre langue de terre.
Il a pas parlé des langues de chat en tant que biscuit.
Ah.
Non, c'est vrai. Je suis au régime en ce moment.
Et la langue de terre ou la langue de sable?
Ah bah, j'ai évité la langue de sable, j'ai évité la langue de terre parce que c'était juste la forme, mais j'aurais pu en parler. C'est vrai.
Et il ne s'est pas retourné cette fois à la langue.
Dans la bouche
non plus.
Ah oui, il y a quand même des oublis.
J'ai fait ça pendant l'essai de voix. Ça s'est pas vu.
Vous reviendrez pour compléter une autre semaine.
Volontiers.
C'est promis.
C'est promis.
Bon, alors la petite citation, Violaine.
Il n'y a pas une citation de Fritz Lang ou de Jack Lang?
On va aider Violaine là-dessus. Jacques Vallée, vous voulez bien aider votre camarade parce qu'elle n'a pas ses lunettes. Alors, mon dictionnaire est écrit trop petit, à vrai dire.
Il y a... une langue morte, vaut mieux...
Lui, il a des lunettes, mais il ne sait pas s'en servir.
Non. Une langue morte, celle qui n'a plus de correspondant physique, sonore, dans le cœur de celui qui la lit.
Eh ben,
c'est de qui, ça?
De Quignard.
Pascal Quignard a écrit ça.
Il a écrit traité, peut-être.
Il n'a pas la langue dans sa poche.
Oui.
Faut-il que les gens soient mauvaise langue dans ce milieu anouille.
Voilà. Bon, bah, écoutez, hein, oui, ça nous suffira, puis on vous retrouve une autre fois avec les compléments. D'accord, Hervé?
Volontiers. Chemise, pantalon,
l'amour des listes, un nouvel inventaire collectif. Alors après celui des TOC, troubles obsessionnels compulsifs, c'était dimanche dernier, ça vous a bien fait réagir. C'est fou comme ces troubles sont bien partagés, on a tous en nous des fêlures qui rapprochent et on se sent moins seul. Aujourd'hui, un sujet proposé par Eva Almassy, nos fées et nos sorcières dans la vie, héroïnes réelles ou de fiction que nous aimons, craignons ou haïssons. Vaste sujet à aborder avec Jean-Bernard Pouy, Patrice Delbourg, Jacques Vallée, Sophie Divry, Jacques Jouet et Eva Almassy qui se jette à l'eau la première puisque c'est son sujet. Eva,
c'est un livre que je relis toujours et donc la personne qui me fait le plus horreur est Milady dans les Trois Mousquetaires. Je ne peux pas supporter l'idée que D'Artagnan ait couché avec elle. Je me réveille la nuit complètement bouleversée et dire
moi, je comprends que D'Artagnan est couché avec elle. La façon dont elle est décrite.
Et dire que Athos l'aimera toujours. Ça me fait donc doublement mal pour D'Artagnan et moi.
Jean-Bernard Pouy.
Moi, j'aime Anna Karina. Définitivement. Ouais. Surtout dans Une femme est une femme de Jean-Luc Godard. Quand, ayant décidé le soir même de fabriquer un enfant, elle demande à Brialy: je mets le pyjama ou la chemise de la nuit?
Ben oui, trop jolie. Patrice Delbourg.
Moi, j'aime les empoisonneuses. À longue haleine, les Marie Bénard, les Violettes Nozières. L'arsenic à la petite semaine, ça, c'est mon truc.
Ah ouais, toujours un peu inquiétant, Patrice Delbourg. Sophie Livry.
La première fée, c'est tout de même la fée originelle, c'est ma mère.
Ah ben oui.
Ma mère. Jamais à court de mots gentils et encourageants. Jamais en défaut pour un applaudissement. Les cartes de goûter d'anniversaire et les confitures de ma mère. Elle est tellement haute dans le podium universel des mamans que, personnellement, j'ai renoncé à jouer dans cette catégorie.
Elle est tellement haute, tu l'écris comment? Haute. Elle est tellement haute dans le podium.
Ah ben, c'est formidable, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec les mamans, Patrice Delbourg? Oui, la
ma
vôtre
mère.
Aussi.
Ma mère, la harpie, la hargneuse, la poison, la rombière, la gorgone, la buse, la rosse, la toupie, mais c'est ma mère.
Oh. Il faut le coche.
Bon, Jacques Jouet, maman.
Ah bah y a pas, non, pas du tout, il n'y a pas d'hésitation. C'est la sphinge de Thèbes. On dit toujours le sphinx, mais pas du tout. C'est la sphinge. Les femmes, lionnes, rapaces à la fois. Je l'admire, elle me fait peur. Et elle a les seins couverts de poils. Ça, c'est vraiment extraordinaire.
C'est chaud, ça.
Et en plus, c'est toujours les autres qu'elle dévore.
Eh bien, merci.
Mais la fée absolue pour moi, c'est la fée bleue de Pinocchio dans le film de Comencini. Donc, ma fée est Gina Lollobrigida. Elle donne à Pinocchio des petits pains beurrés dessus. Ah. Ah, qu'est-ce que ça me fait rêver? Comme ça, la tartine ne peut plus tomber du bon côté ni du mauvais.
Moi, j'aime Anna Karina.
Encore?
Il a désespéré.
Il est monomaniaque. Ouais.
C'est pas fini. La désespérée Nana dans Vivre sa vie de Jean-Luc Godard et sa discussion magique dans un bar avec le philosophe linguiste Brice Parrain, qui était quand même un très grand moment d'intelligence amusée.
Ah. Bah écoutez, il n'y a rien à dire. De toute façon, c'est vrai qu'elle est formidable, Anna Karina.
Oui.
Patrice
Delbourg. Elle est toujours formidable.
Oui.
Moi, j'aime beaucoup la Baba Yaga. La succube des contes russes.
Ah oui.
Vous savez, avec son fichu borgne unijambiste qui chevauche un fagot d'os, comme ça. Baba Yaga.
Bon, ben, d'accord, Jacques Vallée.
Moi, ce sont les dames blanches, ces êtres surnaturels qui apparaissent vêtus de blanc dans les landes et les forêts et qui attirent les hommes. En Bretagne, ce sont des revenantes que l'on surprend la nuit, nettoyant leur linge dans un cours d'eau ou un lavoir. On les appelle les lavandières de nuit. Canorès nose. Et surtout, je me souviens que lorsque Fausto Coppi, le campionissimo italien, fréquenta une femme mariée, le scandale fut tel qu'on surnomma celle-ci la Dame Blanche.
Oui. Ouais,
et tu sais pourquoi?
Non.
Parce que c'était l'euphémisme trouvé par les journalistes pour dire la cocaïne. Oui. Parce que quand il gagnait et qu'il s'en était mis avant plein les trous de nez, on disait « Ah, il a rencontré encore la Dame Blanche ».
Ah bon ?
Et une fois, la Dame Blanche est apparue, en vrai, dans un col, derrière un arbre, des gens blancs, comme ça. Alors là, c'était...
C'est qui, Fausto Coppi, il travaille dans les imprimantes ?
Fausto Coppi, ben...
Mais c'était avec Bartali, le grand champion italien. C'était une fable.
Ils se sont tirés la bourre. Vélo, Sophie.
C'est du vélocipède, c'est de la draisienne. C'est du grand bi. C'est du célérifère, mademoiselle.
Alors, héroïne, crainte, aimée, adorée, Sophie Divry.
Ben, Margaret Thatcher, la sorcière. La Saint-Barthélemy des syndicalistes, parce qu'elle a fait beaucoup de mal à l'Angleterre, au féminisme et à la parité en politique.
Ben voilà. Ouais. Jacques Jouet.
Bah, une cousine de la sphinge de Thèbes de tout à l'heure, c'est la chat de beauté. Parce que le chat beauté est une femelle. Explicitement, dans toutes les versions du conte qui sont avant Perrault, en Italie notamment, Basile, Straparole, c'est toujours une chatte. Mmh. C'est très clair. Donc c'est elle qui fait réussir le marquis de Caraba, qui se montre plus ou moins reconnaissant d'ailleurs, selon les versions. Et puis là encore, il y a du poil.
Mais vous aimez beaucoup les poils.
Oui, j'aime énormément les poils.
Oui, d'accord.
Il y en aura
vous
encore.
Vous êtes contre l'épilation intégrale.
Oh là là.
Eh bien, Jacques Jouet m'a dit un jour, on tuerait père et mère pour vivre dans un orphelinat. Moi, j'ai eu cette chance, mais enfin, mes parents, ils travaillaient. Il y avait, mais il y avait aussi la directrice de l'école maternelle, 1m80, dans les 100 kilos, qui mettait sa main gigantesque dans nos bouches pour voir si les dents de lait bougeaient. Et quand les dents de lait bougeaient assez, alors elle prenait un immense plaisir de les arracher.
Oh!
C'est chouette, cette enfance.
Irénée Houssel s'appelait.
C'était au 18e. C'est horrible, Jean-Bernard Pouilly.
J'aime Anna Karina, tragique dans Alphaville de Jean-Luc Godard, où elle ne se nomme pas Anna Karenine, mais Natacha von Braun, ce qui en dit long sur sa dangerosité radioactive.
Patrice Delbourg.
Moi, j'aime beaucoup Cruella d'Enfer.
Ah oui.
Qui veut la peau des 101 dalmatiens pour se faire un manteau de fourrure. Ouais. Elle a bien raison, les dalmatiens, c'est sourd, c'est un peu con, les dalmatiens.
Oh, c'est très très beau.
Oh, c'est le chien le plus niaiseux de la planète.
Ah bon?
Non, Cruella d'Enfer, elle est sympathique, je trouve.
Vous cassez toutes mes idoles, Patrice Delbourg.
C'est pas fini.
Jacques Vallée.
J'aime bien Vanda, la Vénus à la fourrure de sa chère Mazoche.
Voilà, parce qu'elle a plein de poils aussi.
oui, et qui revendique, elle fouette, surtout elle fouette, qui revendique d'être une païenne, Le christianisme, dit-elle, dont le cruel emblème est la croix, a pour moi quelque chose d'effroyable. Il a le premier introduit un élément étranger et hostile au sein de la nature et de ses innocents instincts.
Oh là là, comme il dit bien les choses à vous aussi, Jacques Jouet.
Bah, c'est, j'ai une autre femme à la fourrure, c'est la...
C'est encore le poil.
La petite pelisse de Rubens, qui est un portrait en pied d'Hélène Fourmont, magnifique. Et c'est en plus véritablement l'invention du soutien-gorge. C'est-à-dire que c'est pas le bras est soutient les seins comme ça.
Ah oui.
Donc le soutien-gorge ne cache pas les seins comme malheureusement font la plupart des soutiens-gorge. Là, c'est vraiment le soutien. Et puis, ouais, c'est la pelisse. Il y a une magnifique fourrure autour d'Hélène Fourmont.
Bon, Sophie Divry, on est dans,
alors,
dans le sujet ou pas? Non.
Ma fée réelle, c'est ma kinésithérapeute en ce moment. En fait, j'aimerais toujours l'avoir près de moi pour qu'elle me masse, m'enduise d'onguents et me donne des bons conseils pour mon mal de dos perpétuel. J'aimerais tellement avoir son super pouvoir dans les mains et savoir m'auto-libérer mes tensions.
Oui. Vous n'êtes pas la seule.
Moi, j'aime Anna Karina.
Oui.
Toujours. La Quénaldienne Odile, dans Bande à part, de Jean-Luc Godard. Quand elle fait du vélo dans les jardins ouvriers de Saint-Maurice, ou quand elle danse le Madison dans le Rade, en face du château de Vincennes. Et à la fin, on crocodile. C'est dans le film.
Un inventaire à suivre en fin de Papou.
On se demande pourquoi tout le monde est fou de moi. Ce n'est pas compliqué, voilà la vérité. J'ai des très jolis seins, des yeux d'améthyste, un tout petit col marin et un slip de batiste.
Anna Karina, la chanson d'Angela, c'était dans Une femme est une femme.
Hep, qu'est-ce que tu fais? J'écoute France Culture. Mais quoi sur France Culture? Bah, les papous dans la tête, qu'est-ce que tu crois?
Et aux papous, place aux primaires de la gauche. Alors je sais, vous en entendez parler à longueur d'infos. Ce que pense l'un, ce que dit l'autre, les amendes honorables, revirements, les tentatives de séduction. Mais les papous sont des littéraires. Aussi, si nous traitons des primaires de la gauche, c'est sous forme de jeu de langue. Et une des façons de jouer avec les mots que nous aimons bien, c'est l'homophonie approximative, chère à Raymond Roussel, qui s'en empara dans « Comment j'ai écrit certains de mes livres ». Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'homophonie, c'est simple, deux phrases ou bouts de phrases sont dites homophoniques. Si elles ont à peu près le même son, la même musique à l'oreille, mais pas le même sens. Et il m'a semblé que l'expression « les primaires de la gauche » était porteuse de nombreuses possibilités homophoniques. En piste, Patrick Beignet, Jacques Vallée, Odile Conseil, Ricardo Mosner, Gérard Mandilla, Eva Almassi, pour jouer avec les primaires de la gauche, phrase de début de leur récit, à conduire de façon à chuter sur une phrase qui lui ressemblera presque. La notion d'approximation est importante. On peut passer par une intermédiaire, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, je précise, pour respecter la règle, que tous les noms des candidats aux primaires de la gauche seront cités à part égale, normal. À vous l'honneur, Patrick Beignet.
Les primaires de la gauche.
On ne promet pas ce ton navré. Hein.
C'est un constat un peu navrant. Les primaires de la gauche. Voilà pour moi, et depuis des semaines, l'unique sujet de réflexion. Vous comprenez pourquoi j'ai l'air.
Ah bah oui.
Même pour moi, qui suis porté à rire de tout, l'enjeu est évident et capital. Si on me voit parfois ces temps-ci marcher à pas lents dans le soir qui vient, c'est que je réfléchis aux primaires de la gauche. Et plus simplement, au choix que je vais devoir faire entre Vincent Peillon et Benoît Hamon. Ce sont deux figures également charismatiques entre lesquelles le choix est difficile. Incapable de trancher par moi-même une question aussi importante, je décidai de faire un pèlerinage à Chartres en espérant qu'une illumination céleste m'embraserait et que Saint-Michel ou Saint-Georges m'apparaîtrait dans une lumière éblouissante et me dirait « Vote pour Payon » ou « Vote pour Hamon ». Et si les deux m'apparaissaient, j'espérais qu'ils seraient du même avis. Je me suis donc lancé sur la route, courageusement, solitaire, car mes amis ont tous déjà choisi leur candidat. Je marchais d'un bon pas, et il faut un bon pas si on veut faire le pèlerinage en 2 jours. Il faisait froid, mais le ciel était d'un beau bleu. Au soir du premier jour, j'avais réservé une chambre à l'hôtel des voyageurs dans une jolie petite ville dont je tairai le nom. Après avoir pris possession de ma chambre, je vis qu'il était déjà 19h30 et je descendis pour dîner. Vous voyez que c'est absolument pathétique.
Oui, c'est ça. Non, mais en même temps, on a faim, c'est la bonne heure. Oui, oui.
Hein. Oui. La salle à manger était encore vide, mais elle se remplit rapidement. À la table voisine s'installa un groupe de jeunes gens, des étudiants en droit ou en sociologie probablement. Assez vite, ils me parurent antipathiques. Parlant haut, content d'eux, visiblement, ils la ramenaient, comme on dit, évoquant tour à tour des situations qui les mettaient à leur avantage. Décidément, me dis-je, ce sont les frimeurs de la Beauce.
Ah, ah. Somptueux, les primaires de la gauche, les frimeurs de la Beauce. C'est bien. Et alors, ce voyage, ça va, vous aviez des bonnes chaussures.
Oui, oui, oui. Oui.
Ouais,
donc... Je ne vous dis pas le... mon choix.
Ah ben non, surtout pas, surtout pas.
Tu récitais du Peggy ?
Mais exactement.
Quel parcours. Alors, c'est à vous, Jacques Vallée, de jouer avec... les primaires de la gauche, non pas que je veuille sous-entendre que c'est rigolo, les primaires de la gauche, non, mais de jouer pas... parce que ici on joue aux homophonies approximatives.
Voilà, c'est ce que j'ai bien compris au départ.
C'est bien, mais je reconnais votre esprit de sérieux, Jacques.
Et donc j'ai fait une sorte d'article de journal, enfin un reportage.
Oui.
Les primaires de la gauche, c'est pas ici, cria en colère le président du tribunal correctionnel de Bar-le-Duc.
Oui.
Il ajouta, madame... vous comparaissez devant cette institution pour être jugé, pas pour exprimer vos idées.
Mmh.
La dénommée Geneviève Pajot, qui semblait avoir été l'instigatrice du trafic, se tut. Cherchant à expliquer la démarche du groupe, elle avait évoqué la reprise individuelle et autres théories fumeuses. Le président l'avait réduit au silence. Il s'agissait pour lui d'une affaire exceptionnelle par son ampleur. Elles étaient 4 grands-mères très dignes dans le box des accusés. De 65 à 72 ans, poursuivies pour vol aggravé. Outre Geneviève Pajot, il y avait Georgette Darien, Hélène Mirbeau et Michel Simon. Elles avaient composé un gang spécialisé dans le vol à l'étalage. Ainsi avaient-elles écumé, depuis plusieurs années, une centaine de grands magasins et de centres commerciaux de la région. Leur cible... principalement des vêtements féminins, des produits de beauté. La tête pensante, Geneviève Pajot, dirigeait auparavant un club privé de rencontres qualifié par le président comme le sanctuaire de la débauche.
Les primaires de la gauche, ah oui, le sanctuaire de la débauche.
Ça va très bien.
Ah, c'est une très jolie homophonie. Hein. Alors, serait purement fortuite.
La bande de vieilles dames ne faisait pas dans la dentelle. Ainsi, lors des perquisitions, la brigade de répression de la sûreté urbaine retrouva des dizaines et des dizaines de mètres cubes d'avis volés, de parfums dans des sacs poubelles et des valises. Il fallut plusieurs fourgons pour les évacuer. Le manège était bien rodé, une organisation sans faille qui consistait à déposer des sacs vides à l'entrée, qu'elle récupérait grâce à des complicités remplies à la sortie. Elle se débarrassait entre-temps des antivols magnétiques ou utilisait des cabas tapissés d'aluminium pouvant passer les portiques sans sonner.
Très forte. Oui.
Merci
quand
pour
même.
Le tuyau, Jacques Vallée. Oui.
Bien qu'elles avaient été relaxées par le tribunal pour une vingtaine de délits, les 4 mamies ont été condamnées à de la prison ferme. 6 ans pour Geneviève Pajot, 4 ans pour ses complices. Dès lors, on les surnomma les mémères de la fauche.
Les primaires de la gauche, les mémères de la fauche. Bon, c'est approximatif, mais c'est délicieusement... Je ne dirais pas rousselien, parce que Raymond Roussel jouait juste avec un mot, mais c'est pas loin. Hein. C'est pas loin. L'ambiancier, c'est à vous de jouer, Odile. Mm-hmm. Vous êtes numéro 3 sur cette épreuve. Enfin, sur ce plaisir.
Sur cette primaire.
Sur cette primaire.
Non seulement je suis numéro 3, mais je suis, figurez-vous, et je suis contente de l'annoncer ici, candidate.
Non.
Si.
Ah oui, et vous faites un discours ?
Je fais un poème en hexamètre.
Ça, c'est fort.
Hexamètre.
Hexamètre, expliquez à Ricardo Mosner.
Non, c'est bon. Admiration.
6 pieds, Ricardo. Oui. Vous pourrez faire une mine peut-être de 6 pieds de long. Oui. Les primaires de la gauche, ils disaient c'est fastoche. Tu verras Iaka faire un peu de blabla, quelques promesses en l'air, prendre un air débonnaire, pas une mine sévère, une pause genre je gère. Un sourire dans ta voix, tu leur dis « Mes compères, je sais ce qu'il faut faire pour résorber le chômage, pour que les enfants soient sages, du soleil toute l'année, plus jamais mal aux pieds. Tu leur dis « Je vous aime » comme des choux à la crème. Et je vous ai compris, je connais vos soucis. Avec moi, présidente, la vie sera dansante, et même, oui, marrante, sous le signe de l'entente. Avec moi, présidente, la vie sera moins chiante. Les patrons, les banquiers, ça va leur faire les pieds. Tous rôtis à la broche, ces faussaires de l'embauche.
Ah, c'est l'intermédiaire.
Je vous annonce une autre intermédiaire, d'ailleurs, avant la finale.
Ces faussaires.
Ces faussaires de l'embauche.
Ouais, très très bien, ouais.
Le voici mon programme pour vous, messieurs, mesdames. C'est celle-là, ma gauche, les critères s'ébauchent.
Deuxième intermédiaire.
Ignoré de Rugy, fade comme une bougie. Quand je vois Ben Amias, je suis à la ramasse. Et puis Sylvia Pinel, mais déjà, qui est-elle? C'est plutôt radical, pas toujours amical. Mais je veux parler vrai, car il faut tout changer. Du passé table rase, abolissons Gattaz. Fini les jours sans joie, la dèche des fins de mois, l'espoir qui s'effiloche, les misères de la fauche.
Ah, voilà. Les primaires de la gauche, les misères de la fauche. Évidemment, on sent que dit les militantes, mais c'est sa marque de fabrique au Papou, évidemment.
Je sais que ça vous fait très plaisir, Françoise.
Et puis, je trouve qu'elle a le sens de la rime.
Oui, absolument.
On ne les passera pas toutes en revue, mais elles étaient belles.
Shiba, pow, blop, oui. Shiba, pow, blop, oui.
Ricardo, vous poursuivez aussi... En poème?
Non, c'est une histoire.
C'est du Mosner prose.
Oui.
Alors, qui commence, comme tous les autres textes, par les primaires de la gauche.
Oui, et il y a un titre, c'est « La troisième sera la bonne ».
Oui, d'accord.
Oui, ça rime.
Les primaires de la gauche avaient suscité une vive discussion par cette nuit glacée. Un théâtreux avait envoyé valser les prospectus d'un candidat défendu par Margot. Elle pleurait. C'était l'occasion de la consoler et de l'inviter à quitter cet endroit pour aller boire un coup ailleurs. J'avais connu Margot en mai, au Folies Bergères. L'ambiance était chaude. Charles Berling avait eu sa nomination pour Vue du Pont et Denis Lavant pour Les Fourberies d'Escapant. Une actrice allemande était nominée et un grossier personnage avait vociféré « Les prix Molière de la Bauche ».
Ah oui.
Il a eu quelques échauffements. J'ai argumenté que la soirée était pourrie et invité Margot à quitter cet endroit pour aller boire un coup ailleurs. Elle avait accepté. J'avais été très timide et j'avais parlé de tout et de rien à tort et à travers. Nous nous séparâmes enchantés de nous connaître mieux, mais je n'avais pas osé l'approcher plus intimement. Puis j'ai eu l'impression qu'elle était plus condescendante qu'attirée, faute à ma mollesse. Donc, c'était la deuxième fois que j'avais pu extirper Margot de la foule pour la monopoliser un peu. Elle était toujours très entourée et courtisée. Je voulais faire mentir ces dictons qui prétendent que la troisième fois c'est la bonne. Alors, une fois installée dans les coins les plus sombres d'un bar très cosy, une coupe à la main, je lui ai embrassé le cou. J'ai pas eu le temps de connaître sa réaction, j'ai entendu un bruit sec, des cris, et j'ai aperçu quelques petites choses virevolter dans l'air et atterrir sous le décolleté de l'envoûtante Margot, qui partit en hurlant. J'allais à sa rescousse quand le barman me bloquait en me sommant de payer la bouteille de champagne tétanché commandée, ouverte et à peine entamée. J'ai réglé et j'ai sorti à sa recherche, il avait disparu dans la brume des grands boulevards. Je suis retourné voir de quoi il en retournait au bar et finir mon champ, quand même. Deux femmes, une brune, petite, jolie, avec des yeux tristes, qui d'un coup crachait la fureur, brandissant ses poings en criant « La prochaine fois, je te tue !» L'autre femme, une vilaine géante décolorée avec une horrible tête de cheval, pleurait en cachant sa bouche ensanglantée. Sur ma table, j'ai découvert ces petites choses qui avaient atterri sur le décolleté de ma vaporeuse Margot, les prémolaires de la moche.
Les primaires de la gauche, et on arrive après une histoire fantastique.
Ah oui,
il faut bien dire.
Une vie aventureuse. Hein.
On chute sur les prémolaires
de la moche.
C'est bien. Hein. Personne n'y avait pensé avant vous. Hein. Ça, c'est clair.
Ricardo a du mordant.
Ouais. C'est à Gérard Mordillat de jouer avec les primaires de la gauche pour faire une ou deux homophonies approximatives, pas plus.
D'accord. Non, il y a juste ce qu'il faut.
C'est un récit ?
C'est une notice historique.
Ah, très bien. Avec des choses justes ?
Absolument. Vous allez voir, tout ça est très attesté. Les primaires de la gauche, comme les primaires de la droite, contrairement à une idée reçue, ne sont pas d'une invention récente et encore moins une invention américaine. Mais bel et bien une invention africaine du début du XXe siècle. Vers 1902, une élection pour la mairie de la principale ville du Nigeria vit s'opposer trois candidats de gauche. Keïta Mondebourg et une matrone de plus de 100 kilos, Rosa Valls, que les méchantes langues surnommaient la Gorgone, plus un jeune homme récemment naturalisé, connu sous le nom d'Ivan Ilyich Ulyanov, surnommé Lénine à cause de sa barbiche et de son crâne chauve. Lors du débat sur une estrade dans un quartier de Victoria Island, le tirage au sort permit à Ivan Ilyich de moquer d'emblée les primeurs de la grosse,
c'est pas mal ça,
dont le programme politique se résumait à un recyclage de vieilles recettes social-libérales inspirées en sous-main par les Américains, alors que lui appelait à la dictature du prolétariat. Rosa Valls rétorqua qu'elle n'avait pas de leçons à recevoir d'un blanc bec qui n'était nigérien que depuis 6 mois et que son programme à elle, plus d'argent pour les riches, c'est plus d'argent pour les pauvres, avait déjà fait ses preuves un peu partout, et surtout aux USA. Répliquant à son tour, Vladimir Ilyich pointa le racisme implicite de sa concurrente, sa xénophobie et sa soumission aux puissances de la finance.
Ah oui.
La dispute dégénéra et se termina en bataille rangée. Les Roses, partisans de Rosa Valls, attaquant les Rouges, soutenant Ivan Ilyich. Et, comme on le dit au Nigeria, un tien prend ça dans le pif, vaut mieux qu'un tu l'auras dans l'urne. Les Rouges l'emportèrent, envoyant à coup de pied dans le valseur Rosa Valls dans les poubelles de l'histoire, alors que le lendemain matin, tous les quotidiens titraient « Lénine, maire de la gosse ».
Oh là là, on s'y attendait pas. Lénine, maire de la gauche. De la gauche,
de la gauche,
ville.
La gauche.
La ville, les primaires de la gauche. Elle est magnifique, celle-là.
C'est historique.
C'est quelqu'un qui s'en saute.
Vous l'aviez vu venir, Patrick?
Ah non, il nous avait caché le nom de la capitale.
Bah, exactement, voilà. Voilà. Ça. Bon, c'est somptueux, hein. Oui, somptueux.
Absolument. Historique.
Historique, absolument. Alors, Eva Alma, c'est avec vous que nous terminons ce bal des primaires de la gauche. Ça vous a inspiré une ou deux homophonies?
Oui, mais ça m'a inspiré une tranche de vie qui, en fait, précède le tout.
D'accord. Vous verrez. C'est comme si on était il y a trois semaines.
Exactement.
Oui.
Les primaires de la gauche, chouette, je me dis, fini le chaume-du, ils devront faire des sondages et des sondages du matin au soir, une aubaine, je serai enquêtrice à TNS, Sofres, Ipsos ou BVA, ou même en faisant les 3-8, pourquoi pas au 3, adieu misère, à moi les salaires, les fiches de paye téléphonées, ça je sais faire, toutes mes copines en témoignent, poser des questions, c'est mon rayon. Forcément, ils recrutent, ils forment rapidement du personnel, j'y vais, je suis prise. L'ordinateur compose automatiquement les numéros d'un panel. J'ai mon casque, mon petit micro flottant devant la bouche. Allô? Allô? Avez-vous l'intention de voter? Oui, non, ne sais pas. Indécis, hésitant, hostile. Monsieur, madame, pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît? Ça ne sera pas long, je promets, rassurez-vous, 10 minutes au plus. Ah, celle-là m'a raccroché au nez. Et celui-là aussi. Le chef enquêteur me regarde d'un drôle d'œil. C'est qu'il nous écoute, nous surveille. Nous sommes 20 enquêteurs, moitié garçons, moitié filles, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. On dirait que nous sommes nous-mêmes un échantillon représentatif de la population française. Des gros, des maigres, des athlétiques. Oh là, il y a un très beau garçon, mon cœur bat. Faut que je sois la plus rapide sans sauter une seule question, sinon le chef me donne un avertissement. Au deuxième, ce sera fini de sonder. Allô, oui, pouvez-vous me citer spontanément un ou plusieurs participants à la primaire? Êtes-vous certain, pas tout à fait certain, d'aller voter? Ouf, c'est l'heure de la pause café. Le beau garçon m'aborde, j'ai un soudain espoir. Mais non, il me demande de lever le pied, je suis trop véloce, les autres ne tiennent pas la cadence. Oui, mais moi, c'est pour payer mes études, je suis musicienne. Il n'est pas intéressé. Changeons de sujet. Qu'est-ce qui a démoli la gauche? La vie privée du président, tous ses livres. Beau garçon n'est pas plus intéressé par mes lectures que par ma musique. Le travail reprend par vengeance. Je décide d'améliorer encore mon rendement. Allô, allô, allô? La salle bourdonne d'ondes sonores, on sonde, à l'autre bout, ça sonne, décroche, me décroche donc, réponds. Et ainsi pendant une semaine. Puis allez, oust, les primaires, c'est fini, les sondages d'opinion et tout. Et 20 de plus qui n'ont plus de travail, beau gosse s'en va sans me faire la bise. Je m'adresse à monsieur le chef enquêteur. Un petit sondage prochainement, les présidentielles? Baromètre sur la consommation des ménages? Non, 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 rien avant 2 mois. Ah, les primaires de la gauche, pour moi, les chimères de l'embauche.
Oh, ce somptueux, somptueux! Quelle mais belle conclusion,
triste,
les chimères de l'embauche pour les primaires de la gauche. Oui, c'est un peu triste.
Mais c'est pas faux, politiquement.
On espérait mieux.
Mi ritornano di notte dei pensieri tutti miei, dei ricordi dell'infanzia profumati come mai. Io ricordo la mia scuola, la mia strada e la città, e le canzoni che cantavo di Trenet o di Ferrat. Dolce Francia, caro paese d'infanzia, mi hai collata di speranza e ti ho presa nel mio cuore. La mia casa che tranquilla ci aspettava, ogni sera si sognava, senza l'ombra di un timore. Io ti amo e ti dedico sto brano. Gioia nel dolore. Dolce Francia, caro paese d'infanzia, mi hai collata di speranza e ti ho presa nel mio cuore. Oggi vado per il mondo sotto 1000 cieli blu, è incantevole e rotondo da Venezia a Tombuctù. Ma i miei più cari ricordi vengono tutti da te, dai tuoi verdi paesaggi, i tuoi villaggi, i tuoi caffè. Dolce Francia, caro paese, mese d'infanzia mi hai collata di speranza e ti ho presa nel mio cuore.
Douce France, version Carla Bruni. Vous écoutez Les Papous dans la tête sur France Culture. Au micro, Françoise Tressart et la bande des Papous du jour à suivre. Une publi-papoucité, une balade japonaise autour de l'impressif Suya Suya et la deuxième partie de l'inventaire des fées et des sorcières, aimées, craintes ou haïes. C'est donc l'instant pub, pub mais décalé ou publi-papoucité. Et c'est Hervé Le Tellier qui se confie, Hervé Le Tellier dans la pièce « Moi et François Mitterrand » est reprise à la Pépinière Opéra à Paris à partir du 25 janvier. Allez-y, c'est un délice. Et Hervé Le Tellier, quand on lui demande d'écrire une publi-papoucité, eh bien voilà ce qui se passe. Avec Gabriel Godard au piano et des rôles pour Eva Almassi, Jeanne Carillon, Patrice Caumont qui se lance.
Vous aimez l'action ? L'immédiateté, la prise de décision.
Oui !
Vous aimez voir les choses s'accomplir, se réaliser dans l'heure, avec énergie.
Oui !
Alors, cette publi-papoucité n'est pas pour vous.
Non, c'est pas pour vous.
Une publi-papoucité ?
Oui, je dois écrire une publi-papoucité.
Sur quoi ?
Je sais pas encore, je te le dirai demain. La procrastination, c'est si bon de remettre à demain ce que l'on pourrait faire le jour même. Oui, mais voilà, c'est tellement bon.
Alors finalement, tu l'as fait sur quoi, ta publi-papoucité ?
Alors je me suis dit que j'allais la faire sur la procrastination. Je la ferai demain.
Tu sais, tu devrais t'y mettre. Dickens disait, la procrastination est un vol fait à la vie.
Qui disait ça ?
Dickens.
Ah, je le lirai demain. Et tu sais ce que disait Oscar Wilde ?
Non.
Je ne remets jamais à demain ce que je peux faire le surlendemain. La procrastination, c'est si bon de remettre à demain ce que l'on pourrait faire le jour même. Oui, mais voilà, c'est tellement bon.
Allez, au boulot. Tu sais, c'est pas parce que c'est difficile qu'on ne commence pas aujourd'hui. C'est parce qu'on ne commence pas aujourd'hui que c'est difficile.
Ouais, ouais, franchement, à quoi bon remettre à demain ce qu'on peut faire avec ses pieds ?
C'est malin. Tu sais, Hervé, il y a beaucoup de manières de ne pas terminer. Mais la plus certaine est de ne même pas commencer.
Ouais, oh, je t'ai dit que je m'y mettais demain.
Et tu sais ce qui arrive à ceux qui procrastinent ?
Non.
Rien. Il ne leur arrive rien.
Oui, bon, ça va. Merci, Eva. Hein.
Et maintenant, pour finir et pour encourager Hervé, un proverbe espagnol. Demain est le jour le plus chargé de la semaine.
Je t'appelle pour te dire, c'est pour demain. Je ne pourrai pas m'y mettre aujourd'hui. Mais je m'y colle demain, c'est promis. Et ça sera bien meilleur qu'aujourd'hui. Tu l'attendais hier et tu pleures. Tu suffoques, tu gémis, je ne suis jamais à l'heure. C'est toujours pour demain. Oui, je suis au regret de te dire que c'est après-demain ou après-après-demain. La procrastination, c'est si bon que tiens, je procrastinerai demain.
C'est donc ça ta publi-papoucité ?
Ben oui.
Finalement, t'aurais peut-être mieux fait de l'écrire demain.
Merci Hervé. Au Japon, le 15 janvier est le jour où l'on célèbre le petit nouvel an, Koshogatsu, un jour qui marque la fin de la période du nouvel an. Toutes les décorations, branches de pin, rameaux de bambou, de fougères doivent disparaître. C'est le jour aujourd'hui donc où il faut aller les faire brûler au sanctuaire Shinto du quartier. On signifie ainsi qu'il faut passer à autre chose, retourner au travail par exemple. La fête est finie, certes, mais pour en témoigner, on mange des gâteaux de riz tout ronds et bombés. On fête la fin de la fête et ça, c'est plutôt une jolie pratique. Je tiens tout mon savoir de Véronique Brindeau, notre papou japonisante qui mange japonais, traduit japonais, enseigne la musique ancienne japonaise au Langso, nous explique dans un livre pour enfants paru chez Piquet Jeunesse comment écrire des haïkus
et au papou nous fait jouer avec des impressifs, sorte d'onomatopée pour qualifier un bruit, une sensation, une impression, d'où impressif. C'est un outil du vocabulaire absolument merveilleux. Alors on joue à leur donner un sens à ces impressifs qu'elle nous soumet et à écrire des pastiches dans lesquelles ils apparaissent. Aujourd'hui, Véronique Brindeau soumet Souya Souya à Patrice Comon et Jean-Bernard Pouy. Dites-moi, Patrice, ça vous a impressionné de travailler sur Souya Souya spécifiquement?
Tous les impressifs m'impressionnent.
Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous lui avez trouvé comme sens à cet impressif?
J'ai beaucoup cherché dans ma bibliothèque pour éclairer ce Souya Souya. En fait, c'est un mot qui est composé de deux homonymes. Souya, au sens de gourmet, et Souya, au sens de coquin. Donc, fine bouche, mais fine bouche serait une traduction assez proche. Mais Souya Souya est un rare exemple où deux substantifs accolés donnent un verbe d'action. Le groupe nominal devient verbal et transitif. Souya Souya, qui devrait logiquement se lire chenapan gourmand ou fripon fine gueule, s'interprète en réalité comme la description de la lente mise à nu d'une douceur ou de toute mise à découverte sciemment suspendue. Retardée, dans l'intention sous-jacente de rendre l'autre impatient ou jaloux. Souya souya, c'est défaire un papier de bonbons dans un effeuillage au ralenti pour reculer sans cesse le dévoilement de son apparition, ou c'est débobiner en traînant la ficelle d'une paupiette ou d'un rôti. Comme disait le chaste Claudel, il y a de la provocation dans le souya souya triomphant où l'on déplie à une cadence infiniment lente le papier de riz qui enveloppe un nougat ou haricot rouge. Ainsi, au pied du sapin de Noël, chaque enfant pratique le souya souya avec son cadeau devant la fratrie impatiente. Le striptease, enfin, peut être interprété comme une forme vulgaire de souya souya.
Oh, c'est très passionnant. Il y a tout ça dans souya souya, Véronique.
Il y a quelque chose d'enfantin, mais
Le petit garçon ou la petite fille sous le sapin de Noël, oui.
Mais ce n'est pas impatient. Et quant à l'érotisme, je réserve mon jugement. Oui.
Ah bon. Jean-Bernard Pouy, dans votre souya souya, vous, est-ce qu'il y a cette pointe, le striptease, la gourmandise, la nourriture?
Pas vraiment.
Non, il n'y a pas ça.
Non, c'est un impressif en général péjoratif.
Ah.
Qui désigne un travail à moitié fait, approximatif, à la va-vite, bref, un peu décevant, voire même raté. Mais il n'y a pas de jugement sur la personne ayant bâclé le boulot.
Ah bon?
Aussi, petit à petit, l'impressif souya souya évoque l'esquisse, le portrait trop rapide, voire le projet, quelquefois même l'avant-projet. Cela dit, les Japonais qui adorent Picasso ne diront jamais que ses œuvres sont souvent souya-souya. Ce serait un jugement inopportun, inélégant, voire obscène. Dans souya-souya, il reste toujours une once d'admiration.
Ah, quand même, oui.
Mais le terme est également employé parfois dans l'intime, par les femmes qui ne trouvent pas leur partenaire à la hauteur et dont les performances sont poliment qualifiées de souya-souya.
Ah oui,
ça, c'est un truc à côté, mais enfin, ça existe.
Ils se rejoignent, hein.
Eh oui, il y a quelque chose quand même, du sens de Patrice Comon. Donc j'ai rencontré un type hier soir, c'était souya souya, c'est pas exaltant, quoi. Ouais. On n'a pas envie de le revoir.
Bon, non.
Non, vous étiez dans le striptease. Non,
mais pas dans le striptease. J'ai dit le striptease, c'est un souya souya vulgaire. C'est dans le fait de défaire
le plaisir de
l'attente.
Plus le tease.
Plus le tease que le strip.
Oui.
Ben, l'un était dans le commencement et l'autre était dans le fiasco final. C'est très différent.
Oui, c'est vrai.
Quelle
c'est
vision de l'amour.
Il n'aime pas être comparé à Jean-Bernard Pouy, Patrice Comon.
Il a raison.
Véronique Brindeau, est-ce qu'il y a un petit point de jonction entre le sens de souya souya et celui que Jean-Bernard Pouy vient de lui donner?
J'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé.
Rien à voir avec ce travail à moitié fait, mais qu'on ne peut pas critiquer pour autant.
Il y a beaucoup plus d'accomplissement et de satisfaction que d'attente déçue.
Ah, donc on est plus proche de Patrice Comon. Alors, Patrice Comon, ce côté gourmet mais coquin, ce côté fine bouche mais schnappant, vous en avez retrouvé des traces dans la littérature, non? Ou dans la philo, je ne sais pas.
Non, dans la littérature. Mais ce côté a disparu au nom du fait de, comme je l'ai dit, de défaire lentement une enveloppe, de décacheter avec patience. C'est ça le sens verbal maintenant.
Oui.
Pour bien l'expliquer, j'ai retrouvé un poème à ces inouïs d'inouïs, ce poème nous propose de nous expliquer très bien le Suya Suya.
Oui.
Il y a la répétition deux fois, non pas d'un haïku, mais des deux vers finaux. Uh-huh. Quoi ? Kimono chrysalide, épais cocon de soie cruelle, noué d'indolentes ficelles, languissant et trop lent fuseau, qu'elle file d'un frein têtu, origami qui se déplie au pas suspendu de tortue. Le sablier de temps s'emplit, kimono chrysalide, l'oignon à l'infini se pèle. À la lente métamorphose, bouton têtu, fils du retard, impose d'insolentes pauses, mieux vaudrait jamais que trop tard. Kimono chrysalide n'en finit pas de se défaire, tant de rubans à dénouer, suspendent le soyeux dépli, supplice sans hâte ni mépris, avec délice elle se délasse, kimono chrysalide s'ouvre juste avant qu'on se lasse, je dis enfin, elle dit déjà, long et cruel Suya Suya, je dis enfin, elle dit déjà, long et cruel Suya Suya.
Oh, c'est ravissant. Ravissant.
Je vais relire Inouï. Oui.
Petite faute de l'oignon dans tout ça. Enfin...
Ah, c'est une faute de goût pour vous, la
présence
de l'oignon.
On est dans les rubans, dans le soyeux, dans le kimono, l'oignon d'un coup, là, il... De toute façon, l'oignon, ça, c'est toujours trop fort.
Non, mais dans la poésie japonaise, oui. On n'a pas peur...
De l'oignon.
On n'a pas peur des mots les plus crus et de mélanger.
Non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Tu aurais pris l'échalote, ça aurait été un peu plus... un peu plus goûteux. L'oignon, c'est un peu brutal, l'audio.
Oui, la civette, oui, absolument.
Ah, je suis
d'accord.
À part cette très légère critique sur votre pastiche.
Ouais, magnifique, hein, oui, oui.
C'est magnifique.
Ah, oui.
Véronique Brindeau, alors, dans ce poème, est-ce qu'on trouve un petit peu de l'essence même de Suya Suya ?
J'ai retrouvé la délicatesse, le soyeux et le temps qui passe avec délectation.
Ah. Bah, vous voyez. Hein.
Bah, tu vois.
Il est content, il est content. On va retrouver Jean-Bernard Pouy maintenant, c'est un autre univers, donc on est dans l'œuvre à moitié faite, un travail qui peut être un peu bâclé, mais on ne va pas le dire parce que c'est peut-être le travail de quelqu'un de très grand par ailleurs.
Voilà, alors justement, pour m'aider, j'ai trouvé Dans San Antonio.
Ah oui, c'est pas la même chose.
Dans un roman inachevé,
oui.
Il n'a pas été publié, il s'appelait Kafka Boudin. Il y a tout un passage où, effectivement, il cite le Suya Suya, ce qui est assez étonnant de ta part.
Ouais.
Bon, alors, les âmes sensibles, hein, vous pouvez vous éloigner du poste, parce que c'est quand même du San Antonio. Bref, tout ce déconnage abject pour dire que Ginette, c'était de la panthère qu'on n'en fait plus, de Somalie ou des Philippines, enfin, par là, à foutre Dieu, la belle personne. Déjà, il y avait un client qui la matait, alors elle l'a regardé, avec des yeux de président de la République annonçant aux contribuables que les impôts sont supprimés, et elle lui a lancé « Tu veux la photo, Maton ?» Ce qui en disait déjà long sur les diplômes de la créature. Je ne sais pas par quoi commencer pour vous la décrire. Les Cannes, le musée du Louvre. On passe au visage, le Prado. Je descends vers la Loloche, la Samaritaine, 1 et 2, les deux tomes du Grand Robert, et je pèse mes mots, mec. Des flotteurs en montgolfière, des pare-chocs en kevlar. Et puis, en dessous, puisqu'il n'y a que ça qui t'intéresse, pauvre type, alors là, panique de la sémantique, des jambons cuits à l'os. Et puis, la gidouille et le buffet, la cage à pain, la brioche et le bureau. Et encore en dessous, là, t'en peux plus, hein, c'est la WC, mec. Je devine, sous la blouse limonadière, le triangle d'or et celui des Bermudes, la salle polyvalente, la Ferrari de Fangio, la barbiche à Sigmund, le terminus du 96, la poésie de la prose, le chat de la mère Michel, la boîte de Pandore comme un bienheureux, et surtout, oui, surtout, la cabine du photomaton, encore, avec le tabouret qui monte et qui descend, la monnaie dans la fente, le flash en pleine poire, tu tires le rideau et pour une grimace, t'as 4 tirages, faut attendre 5 minutes pour que ça sorte, ça met longtemps à sécher, ça coûte pas cher et t'es content. Mais ma pauvre et maigre description reste Suya Suya, comme disent les Nippons, ni mauvais. Un faible croquis de la réalité. Je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Oh, et puis si, tiens, une tête de fille intelligente. Si bellement intelligente, laïque et obligatoire, j'en ai envie de pleurer ma mère.
C'est splendide, hein, Véronique.
Ce qui est très frappant, c'est la diversité d'emplois littéraires de ce terme, Suya Suya.
Il y a quand même un gap, non ?
Les tons sont différents.
Oui, voilà, on peut dire ça, oui.
Alors c'est un souffle, hein, Souya Souya, mais c'est un souffle qui n'est pas épique, qui est plus intime et qui est plus enfantin. C'est ce qu'on dit en général du souffle léger d'un enfant qui dort, et d'un tout petit en particulier.
Ah oui.
Pour qui a déjà vu un tout petit qui dort, c'est cette qualité-là de sommeil qu'on appelle Souya Souya et qui n'est comparable à
rien,
à aucun d'autre et à rien, je crois. Sauf peut-être, alors c'est l'autre acception de ce mot Souya Souya, une brise, un souffle d'air qui passe par exemple dans le soir par la fenêtre. Et j'ai trouvé cette expression Madokara Souya Souya Shita Yokaze Ga Nagare Komu, par la fenêtre ouverte passe le vent du soir. Mais l'expression consacrée pour Souya Souya, c'est Kodomo ga Souya Souya Neru, les enfants qui dorment Souya Souya.
C'est à la fois un sommeil extrêmement profond et avec la légèreté de l'enfance.
Avec la légèreté, en tout cas, ou la concentration aussi de l'enfance, ouais, parfois. Ouais. Il y a, oui, sommeil heureux, en tout cas, qu'on ne retrouve pas toujours.
C'est pas sûr.
Non, les bébés ne sont pas forcément heureux de dormir.
Non, ils s'ennuient.
Ils commencent à rêver violemment.
Oh, pas tout de suite, hein, parce qu'elle a parlé du nouveau-né, quand même, Véronique.
Tout petit, en tout cas.
Oui. Et est-ce que vous avez des traces littéraires ou des traces de la vie quotidienne de Souya Souya ?
C'est un poète qui s'est beaucoup penché sur les êtres petits, vulnérables, les petits animaux, et qui a beaucoup aussi écrit des poèmes sur les enfants. C'est le poète Issa, Kobayashi Issa, donc à la première moitié du 19e siècle. Oui. Et j'ai trouvé deux poèmes qui décrivent le sommeil d'un enfant. Alors le premier que j'ai choisi, c'est un haïku d'été. Donc avec un mot de saison, une référence à l'été, et là le mot de saison, c'est le moustique. Alors là, c'est un petit enfant qui, malgré les moustiques, s'endort. Kanokoe ni narete suya suya neru kokana. Kanokoe ni narete suya suya neru kokana. Au chant des moustiques, habitué, il s'endort, le petit enfant. Au chant des moustiques, habitué, il s'endort, le petit enfant.
Puisqu'on redit toujours deux fois les haïkus.
Les haïkus, on les dit deux fois parce qu'ils sont très courts, ils n'ont que 17 syllabes, quand ils ne sont pas des exceptions.
Oui, Serge ?
Non, mais il a de la chance, parce qu'il ne le pique pas. Alors.
Je ne sais pas si l'enfant est piqué, mais en tout cas, ça fait quand même du bruit, des moustiques qui tournent autour des oreilles, mais l'enfant est tellement habitué qu'au contraire, c'est presque une berceuse pour lui.
Ah oui.
Il a de la chance, hein ?
Oui.
Et j'en ai trouvé un autre au Nouvel An, puisque le Nouvel An, c'est aussi c'est la cinquième saison des poètes. Au Japon, ils ont cinq saisons, ils ont bien de la chance. Le Nouvel An est une saison à part entière. Et à l'époque du Nouvel An, les enfants jouent beaucoup au cerf-volant. Donc le cerf-volant est un mot du Nouvel An. Takodaite suguni suya suya neru kokana. Takodaite suguni suya suya neru no kana. Il s'endort aussitôt, son cerf-volant dans les bras, le petit enfant. Il s'endort aussitôt, son cerf-volant dans les bras, le petit enfant.
Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Patrice ? Comment ?
Le cerf-volant, c'est
pas
énorme.
Facile. Hein.
C'est énorme. Donc, s'endormir un tout petit enfant avec un cerf-volant dans les bras, je dis ça.
Il va s'envoler.
La ficelle du cerf-volant, oui, mais le cerf-volant.
C'est pas prudent, vous voulez dire. Il y a des petits cerfs-volants.
Non, ils n'ont pas de petits
pour les enfants.
Non, ça ne vole pas, un petit faux. C'est au moins ça d'envergure.
Ah bon, monsieur est technicien.
Oui, le cerf-volant.
Les cerfs-volants japonais sont petits.
Est-ce que vous auriez un mot de conclusion, un mot qui rassemblerait toutes ces idées sur le Souya Souya, Lucas Fournier ?
Oui, Véronique vient de nous dire qu'un haïku comportait 17 syllabes.
Oui.
Et moi, j'en trouve que deux. Haïku.
Au Sole Mio, version japonaise, par Dalida.
Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture, la deuxième partie de notre inventaire des fées et sorcières, héroïnes de la vie réelle ou fictive que nous aimons, craignons ou haïssons. Alors n'oubliez pas, vous aussi, de nous communiquer vos fées et sorcières sur la page Facebook des Papous ou rubrique commentaires du jour. On retrouve Jacques Jouet, Val Massy, Patrice Delbourg, Jacques Vallée, Jean-Bernard Puy qui n'a qu'une seule fée adorée, Anna Karina. Et c'est Sophie Divry qui ouvre cette deuxième partie d'inventaire. Sophie.
Mon héroïne depuis mon adolescence, c'est tout de même Simone de Beauvoir.
Ah bon ?
J'ai tout lu d'elle, je trouve tout fantastique. Et surtout, j'ai adoré l'entendre parler anglais. Parce qu'elle a un accent abominable et ça me la rend plus proche encore de moi.
Ah oui ?
Je suis aussi au timing.
Ah ici. Patrice.
Moi j'aime la voisin dans l'affaire des poisons. Qui était adepte des sauteries sataniques et des messes noires. C'est elle qui fournissait des produits à des femmes de haut rang pour ensuite trucider leur mari et récupérer les biens par derrière. Une femme formidable, remarquable manipulatrice, la
vous
voisin.
Aimez vraiment, vous avez vraiment un fait pour les méchants et pervers.
C'est vrai que j'aime assez ça chez la femme.
Je peux vous en présenter. Jacques Vallée.
Moi j'ai un faible pour la Lorelai, cette nymphe. Assise sur un rocher qui domine le Rhin et qui chante, un chant si beau qu'il envoûte les marins qui passent en bateau et les fait chavirer, elle inspire les poètes. Heine et Apollinaire, surtout, qui a adapté un poème de Clémence Brentano, « Ô belle Lorelai, aux yeux pleins de pierreries, de quel magicien tiens-tu ta sorcellerie ?»
Oui, bah, il a quelque chose à ajouter, Patrice Delbourg.
Bien, dans la lignée la Lorelai, il faut avoir une petite pensée pour Circé. Circé qui, dans l'Odyssée, transforme les compagnons d'Ulysse en animaux.
Oui.
En cochons.
Exactement.
Oui. Ça n'est pas les plus glamour.
Entrui aussi. Détruit, dit-elle.
Parce que tout est bon en cochons.
Jacques Jouet.
Madame Clermont, dans Les Sept Boules de Cristal. Celle qui est interrogée par le magicien et sa médium. On ne voit pas ses cheveux, elle a un petit chapeau. Et quand même, Hergé aura dessiné une fois mieux qu'une mégère ou qu'une diva que vous connaissez. Madame Clermont.
La femme du cinéaste.
Oui, la femme du cinéaste qui reçoit une boule de cristal.
Elle est jolie.
Ah, très jolie.
Comment jolie.
Magnifique.
Magnifique.
Ah oui, il faut que je relise cette boule de cristal. Et Val Massy.
Mrs. Robinson dans le film de Mike Nichols.
La lauréat.
La lauréat qui devient une très méchante sorcière qui dit à sa fille qu'elle a été violée par Benjamin, joué par Dustin Hoffman. Et la chanson de.
Et la chanson.
J'ajoute, oui, la chanson de Simon and Garfunkel parce que Simon et Garfunkel sont des fées. Des fées garçons.
Pour vous, oui.
À vie avec leur musique.
Bah oui, formidable.
Forcément.
On retrouve Anna Karina avec Jean-Bernard Puy.
Il ne faut pas oublier la Marianne, bien sûr, de Pierrot le Fou, de Jean-Luc Godard, qui avoue, les pieds dans l'eau, qu'elle ne sait pas quoi faire et qu'est-ce qu'elle peut faire. Et que Belmondo lui lance la pire et définitive, pour moi, réplique du cinéma. Silence, j'écris.
Jacques Vallée.
Ben moi, c'est pas Anna Karina. La plus troublante reste pour moi Jeanne Moreau. Elle est féerique dans Les Amants de Luyman. Ce film a sans doute un peu vieilli, mais pas la saveur de l'effet qu'il a provoqué chez moi.
Ouais, et puis sa voix.
Oui,
ouais, bien sûr. Sophie Divry.
Alors, la plus méchante sorcière que j'ai jamais rencontrée en littérature, c'est la Mémé dans Raid le démon de Gilbert Sorrentino. C'est un livre américain formidable. C'est un personnage abominable parce qu'elle bat son petit-fils. Elle est atroce avec lui. Elle lui fait des coups tordus atroces tous les samedis. Elle le prive de cinéma, mais de manière très très vicieuse. Et j'ai jamais souhaité si ardemment la mort de quelqu'un. Mort à Mémé.
Jacques Jouet, sorcière ou fée ?
Un peu entre les deux. C'est Sœur Vaseline. Sœur Vaseline, c'est le personnage d'un film muet de court-métrage qui passe pour être le premier porno de l'histoire du cinéma. 8 minutes, je vous recommande de le regarder.
8 minutes,
là où vous savez, vous le trouverez facilement. Sœur Vaseline met dans tous leurs états un jardinier et un moine. Bah quoi, c'est bocasse en mouvement, un petit peu accéléré, c'est tout.
Jean-Bernard Puy.
J'aime Anna Karina. Même mélangée avec deux autres actrices autant adorables qu'émouvantes, la mythique Elsa Martinelli
et la toute hésitante Johanna Schimkus.
Ah oui.
Dans De l'amour de Jean Aurel, un summum de mon érotisme personnel et boutonneux. C'est un très mauvais film, mais un excellent remède.
Et elle n'a jamais joué méchante, une méchante.
Tais-toi, toi.
Elsa Martinelli.
Eh ben, mais je comprends pourquoi vous n'allez plus au cinéma, parce qu'elle ne joue plus, Anna Karina. Oui,
pour les rétrospectives. Alors moi, j'ai encore deux filles garçons. C'est Catherine et Liliane du Petit Journal de Canal+. C'est des vraies filles des temps modernes. Oui. Je m'en administre des paquets bienfaisants en replay, comme antidépresseurs.
Ah oui. Ouais. Bon, faudra que j'aille voir Jacques Vallée.
Alors moi, j'inscris dans mon panthéon féminin Virginia Woolf.
Ah.
Je l'ai découverte quand j'étais lycéen avec Mrs. Dalloway.
Oui.
Puis avec La promenade au phare. J'aime particulièrement son essai Une chambre à soi, un plaidoyer féminin où elle constate que la liberté intellectuelle, dit-elle, dépend des choses matérielles.
Jean-Bernard Pouy, Anna Karina.
Bah tiens. Alors on va pas parler d'Anna Karina dans un film de Pierre Koalnik qui s'appelle Anna, mais on en parle quand même parce que c'est dans ce film qu'elle chante la chanson de Gainsbourg, Sous le soleil exactement. Ce qui est quand même autre chose que la recette du cake par Catherine Deneuve dans un navet sirupeux beaucoup plus connu. Et j'aime surtout Anna Karina parce que j'ai appris qu'elle avait refusé le rôle que lui proposait Jean-Luc Godard dans À bout de souffle.
Ah oui.
Un acte héroïque.
Oui.
Une amabilité géante en faveur de Ginsberg, la pauvre, qui a permis à cette dernière de vivre au moins quelque chose de fort dans sa vie. C'est-à-dire, c'est-à-dire un bon film.
Il est dur. Hein. Enfin,
ah, c'est bien de
il caresse et puis clac, oui, la cravache part.
Mais quel bon film de, où a joué Ginsberg, d'après vous?
Je ne sais pas, à bout de souffle. Ah, Jacques Jouet.
Eh bien, deux fées ou deux sorcières, comme vous voudrez, mais qui sont des contraires.
Oui.
Antonia, dans le conte d'Hoffmann, c'est la plus belle voix du monde qui ne doit pas chanter. Si elle chante, ce sera le plus beau chant, mais elle mourra. Son contraire, c'est Scheherazade. Si elle raconte, ce sera la plus belle histoire, mais elle vivra.
À méditer. Et Val, merci.
Moi, j'ai rencontré une vraie fée au vide-grenier du Gros Caillou. À plaisir dans les Yvelines, une femme qui commence à installer son stand, une énorme pierre bleue que je vois. Je demande combien. Elle me dit 15 euros. Je demande, ça pourrait être 10? D'accord, me dit la fée. Je porte la pierre de 6 kilos à ma voiture. Il commence à pleuvoir. La femme a disparu. Elle n'était là que pour moi, pour me vendre ce magnifique géode de Célestite qui vaut dans les 400 euros. Ce que j'ignorais au moment de la transaction.
Ah oui, ne donnez pas votre adresse. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin et Pierre Mine à retrouver pour le podcast sur franceculture.fr. Et pour les commentaires, questions, suggestions, vous avez le choix entre notre page Facebook et la rubrique commentaires des papous du jour. Prochain rendez-vous avec nos jeux papous dimanche à 12h50. Au revoir. Passez un bel après-midi bien au chaud à l'écoute de France Culture. Vous y serez toujours en très bonne compagnie.